Ce matin, j'avais à cœur de pouvoir vous partager, vous annoncer la parole de Dieu sur un texte qui m'a beaucoup, beaucoup encouragé. Ça a été un tremplin pour moi dans ma vie en tant que chrétien, dans ce chemin de sanctification. Et on sait ô combien, les péchés nous freinent dans notre marche avec le Seigneur. Et ce péché découle de la tentation à laquelle nous faillissons. Et ce matin, donc, j'aimerais aborder avec vous la tentation de Jésus. Et nous prendrons le texte dans l'Évangile selon Matthieu. Mais avant de nous mettre à son écoute, prions. Père céleste, nous voulons encore nous tourner vers toi, tendre l'oreille et ouvrir nos cœurs à recevoir pleinement de toi. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui se révèle et qui se révèle encore aujourd'hui. Parle-nous, révèle-toi à nous afin que nos vies soient transformées de gloire en gloire à ton image, Seigneur. Fais-nous du bien. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible et nous allons lire les 11 premiers versets. Matthieu, chapitre 4. Je lis selon la version 1910 de Louis II. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ainsi la lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes conscient de tout le travail des sportifs de haut niveau. Au-delà de l'aspect physique, il y a tout un travail d'observation et de réflexion qui invite à une stratégie. Et quand on regarde, par exemple, au tennis, eh bien, les tennisman ne font pas que s'entraîner. Ils savent l'adversaire contre lequel ils vont disputer leur match, et ils vont donc regarder attentivement toutes les vidéos de cet adversaire-là en question, pour voir comment est-ce qu'il joue ? Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Et il va travailler son jeu en fonction de cela. Il n'y a pas que l'aspect physique. Et quand on regarde un adversaire, imaginons qu'il a un énorme coup droit, et bien peut-être qu'on va jouer sur son revers. Peut-être que si notre adversaire manque de souffle, très peu de cardio, eh ben on va essayer de le faire courir. Des balles à gauche, à droite, pour qu'il s'épuise. On va s'adapter à notre adversaire dans le match que nous faisons. Et il me semble que notre victoire sur la tentation, sur le péché, passe déjà par là, par la connaissance de notre adversaire, le diable. Et je nous invite ce matin à aborder deux atouts. Deux atouts pour sortir vainqueur de la tentation. Le premier, c'est de pouvoir discerner les manœuvres du diable. Il y en a quatre, et nous allons les voir ici, les quatre manœuvres du diable. Puis le deuxième atout, c'est de pouvoir s'intégrer dans l'œuvre victorieuse de Jésus. S'intégrer dans l'œuvre victorieuse de Jésus. Alors, comme nous l'avons dit précédemment, la connaissance de notre ennemi, de notre adversaire, est un critère de notre victoire. Et je nous invite à nous focaliser donc un instant sur les manœuvres du diable. Et il me semble que la première manœuvre est le cadre, l'environnement. Jésus est amené, nous dit verset 1, dans le désert pour être tenté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un désert c'est aride, il fait chaud, on a soif, on dépense énormément d'énergie. La chaleur nous accable. Mais le soir, c'est autant éprouvant, puisque dans les déserts, le soir, il fait 5 degrés. Autant vous dire qu'on chute littéralement de 45 degrés. On est épuisé par cette différence de température. Il y a le côté chaud et le côté froid. Et des fois, on peut être baigné dans cet environnement-là, dans un cadre très chaud, qui nous pousse à bout peut-être, dans nos retranchements, qui nous amène à crier, à hurler, à insulter, ou bien même à violenter notre prochain. Et je pense qu'on a tous cet exemple en tête, dans la voiture, avec tous ces usagers de la route, qui sont dangereux, inconvenants, irrespectueux même. Et des fois, notre épouse ou notre époux, alors c'est plutôt les épouses, qui nous disent « Doucement, doucement, calme-toi !» Mais que dire aussi de ce cadre extrêmement chaud qu'on retrouve au boulot, brûlant même, j'ai envie de dire, avec ce patron dictateur qui met la pression tout le temps. Les chiffres, les chiffres, les chiffres, tiens, ça c'est mal fait. Tout le temps derrière nous. Avec ces listes de choses à faire qui sont interminables. Oh, j'en peux plus, ça me stresse, j'en ai marre. Ou bien alors, les camarades de classe qui nous cassent les pieds, qui sont moqueurs et même irrespectueux vis-à-vis de nous, de notre foi, de notre famille même. Ces cadres chauds qui nous font perdre la tête au point de pécher. Mais on a vu également qu'il y a cet environnement froid. Et là, ça peut nous jouer des tours également. Notamment la passivité. La passivité où on ne fait rien. On ne fait rien. Et ça nous amène à un comportement amorphe. Et je me souviens dans une église à Nantes, à laquelle je faisais partie, il y avait un frère qui avait un zèle ardent pour notre quartier. Et il disait, je vais aller prier deux fois par semaine dans ce quartier. Et il invitait l'église à venir prier avec lui. Et vous savez quoi? Il était seul. Seul. Semaine après semaine, il était seul dans ce combat à prier pour ce quartier. Et vous savez quoi? Au bout de 2-3 mois, il a arrêté. Ça l'avait complètement démoralisé. La passivité de l'Église, des membres, de voir qu'ils n'étaient pas zélés, leur passivité l'avait découragé complètement. Veillons et discernons notre environnement, notre cadre, afin de ne pas laisser place à un terreau fertile à la chute. Puis, regardons la deuxième manœuvre, c'est notre chair, notre condition charnelle. Et le cadre et notre condition sont étroitement liés. Elles sont indissociables d'une certaine manière. Remarquez au verset 3, le diable intervient quand? Après que Jésus soit éprouvé, après que Jésus eut vécu ce jeûne 40 jours et 40 nuits. C'est à ce moment-là, dans notre détresse, dans notre faiblesse, que le diable intervient. Lorsque nous sommes épuisés, stressés, parfois même souffrant physiquement ou moralement, notre patience et notre maîtrise de nous-mêmes n'est-elle pas mise à rude épreuve? Le malin sait exploiter les moindres de nos faiblesses. Quant à la chair. Et c'est ce qui se passe au verset 3, regardez. Il s'approche de Jésus et le tente. Tiens, ben Jésus, transforme ses pierres en pain si tu as faim. Mange. Il le tente. Il intervient comme nous sommes affaiblis. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'intervient pas également autrement? Lorsque tout semble tout beau, tout rose, waouh, ma relation avec le Seigneur, avec mes relations, avec mes frères et sœurs, avec mon entourage, au boulot, ça va. La santé également, waouh, merci Seigneur. Est-ce que ce n'est pas aussi dans ces moments-là, et plus particulièrement dans ces moments-là, que Satan intervient? Regardons à notre vie. N'est-ce pas à ce moment-là où on chute et on se dit, mais comment ça se fait? J'étais si bien avec le Seigneur. Comment j'ai pu pécher? Eh bien, c'est dans ces moments-là où on se sent bien, où on se dit, j'ai rien à craindre. Et qu'on baisse notre vigilance, notre garde. Et d'une certaine manière, c'est là où on est le plus affaibli. C'est quand on désarme notre arme. C'est quand on enlève cette armure. Ah, on est bien là. C'est à ce moment-là que Satan intervient. Cette troisième manœuvre, qui est le doute. La troisième manœuvre du diable utilise le doute. C'est son arme. Et si Satan est appelé le malin, ce n'est pas pour rien. Il prend soin de semer, tout au long de sa conversation avec Jésus, des graines de doute qu'il espère voir germer. Dans notre texte, il va essayer de remettre en question l'identité de Jésus. Et à deux reprises, versets 6 et 7, il dit « Mais si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. » Et cette question de l'identité est extrêmement importante, et nous le verrons par la suite. Et vous l'avez peut-être déjà vécu, n'est-ce pas? Ce péché où vous faillissez jour après jour. Peut-être où c'est difficile de vous en détacher. Et vous vous dites, oh, je ne suis pas digne du Seigneur. Je suis son enfant, mais est-ce que je suis réellement son enfant? Parce qu'un enfant de Dieu, ça n'agit pas de cette manière-là. Et c'est Satan qui vient et qui met ses graines de doute en vous, en vous disant, est-ce que tu es réellement chrétien en fait? Est-ce que tu es réellement chrétien? Mais bien plus, le malin va ensuite jusqu'à utiliser la parole de Dieu pour à nouveau essayer de faire douter Jésus. Et autant dire que c'est un bibliste hors pair. Un bibliste hors pair contre lequel nous devons faire face. Il va utiliser la parole de Dieu pour faire chuter Jésus. Et quand on regarde au nombre de nos chutes, on pourrait se poser cette question, mais est-ce que c'est le reflet de la connaissance de la parole de Dieu? Est-ce que mes chutes ont un lien avec mon attachement à la parole? Est-ce que mes chutes sont étroitement liées à ma connaissance que j'ai de la parole de Dieu? Combien de temps passons-nous dans la lecture, dans la méditation de la parole? Une question que je nous pose à tous, et moi-même qui suis dans le ministère, à quel point je vois que c'est difficile, à plus forte raison, pour chacun d'entre nous. Mais je vous encourage à persévérer en ce sens, car ça va vous armer, comme Jésus, et on va le voir, qui répond à chaque fois par la parole pour ne pas céder à la tentation. Et là, Satan utilise le psaume 91, qui parle de la confiance en Dieu, et il l'utilise pour justifier cet acte qui reviendrait à provoquer Dieu, au vu de la réponse de Jésus. En effet, la réponse au verset 7 de Jésus le suggère. Mais il le contre par la parole de Dieu, comme je viens de le dire. Et il cite le Deutéronome, chapitre 6, verset 16. « Vous ne provoquerez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. » Et pour bien comprendre le lien entre le doute, cette tentation-là, et la provocation, eh bien, il faut se replonger dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé à Massa? Après être sortis de l'esclavage d'Égypte, les Hébreux ont voyagé dans le désert. Il manquait d'eau, il y avait soif. Et Exode, chapitre 17, verset 2, nous dit « Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? Et plus loin, au verset 7, il est dit, Moïse appela cet endroit Massa et Meriba, parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ? » L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ? Il l'avait provoqué de cette manière. Et pour Jésus, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'il... Satan est très malin. Il veut, par là, en le plaçant sur le haut du temple, lui dire, ben vas-y, saute. De manière à ce que Jésus se dise, est-ce que, Seigneur, tu es réellement là, oui ou non? Et, je vais sauter pour voir. Il le met en doute de cette manière-là. Vraiment fourbe. Vraiment fourbe. Mais Jésus ne succombe pas une nouvelle fois. Satan va essayer de semer le doute et le mensonge dans notre foi en Dieu. Et malheureusement, il utilise bien trop souvent des prédicateurs pour égarer, pour nous détourner de la vérité. J'ai envie de dire, soyons vigilants, soyons attentifs à ce que nous entendons à l'Église et ayons du discernement quant à ce qui est enseigné ici, mais aussi sur la toile et d'autant plus sur la toile. Ayons du discernement maintenant où je vous parle. Attachons-nous à la parole de vérité comme Jésus l'a fait. Puis il y a cette quatrième manœuvre, un appât. Satan utilise un appât qui l'agite sous le nez de Jésus, bien succulent. Regarde toute cette gloire, je te l'offre si tu te prosternes devant moi. Et vous savez, il y a quatre mots qui régissent ce monde, et on pourrait en trouver d'autres. Sexe, pouvoir, argent, drogue. Et ceux-ci sont de véritables idoles qui ravissent nos cœurs. Elles ont pour but de nous détourner du seul vrai Dieu, le détrônant ainsi de sa place qu'il devrait avoir, la première position dans notre vie. Et cette manœuvre, je dirais, est certainement la plus à craindre. La plus à craindre parce que nos milieux évangéliques ne sont pas du tout épargnés et touchent même les plus grandes figures du monde évangélique. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité évangélique, mais en 2021, il y a eu un scandale qui a fait, qui a fait tomber les uns et les autres en se disant « Comment est-ce que c'est possible ?» L'affaire Zacharias. Ce frère, grand apologète, renommé mondial, très influent au point qu'il a créé une école d'apologie et nos apologètes français se sont formés chez lui. Un homme brillant qui avait de l'argent, de la renommée, de la célébrité. Après sa mort, scandale sexuel où il a abusé de plusieurs femmes. Il avait pourtant tout. La célébrité, la gloire. Mais Satan lui a agité cet appât. Et malheureusement, il a failli. Prenons garde. Prenons garde à ces idoles. Et on pourrait se demander, mais où sont ces idoles de mon cœur? Peut-être qu'ils se trouvent tout simplement là, dans notre poche, notre smartphone. Peut-être qu'ils se trouvent dans une activité, dans une personne, dans des biens matériels. Qu'est-ce qui passe à la première place de Dieu? Le cadre, la chair, le doute et l'appât. Telles sont les manœuvres du diable. Et je nous invite à tout simplement prendre un temps de silence pour réfléchir. Où est-ce que je faillis le plus? Quelles sont les manœuvres du diable qui me font chuter sans cesse? Bien que j'en ai conscience, je chute encore. Prenons un court instant dans le silence pour y réfléchir. Peut-être même pour confesser à Dieu nos chutes et lui renouveler notre confiance et notre foi. On a bien beau connaître son adversaire, le diable. Mais est-ce que cela suffit pour nous détacher de la tentation du péché? Non. Non, pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes liés. Satan a mis des chaînes sur nous qui ne croyons pas en Christ. Et dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 26, après avoir exhorté Timothée à reprendre les contradicteurs, il leur dit, que ces personnes-là, qui sont égarées, il dit au verset 26 de ces personnes, que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Les personnes qui ne sont pas en Christ sont enchaînées. Ils sont esclaves du péché. Et Satan les retient captifs. Et bien qu'on a cette compréhension de ses manœuvres, de son ministère, je dirais, de Satan, on aura beau tout faire. Nous chuterons à chaque fois. C'est pourquoi il nous faut donc s'insérer dans l'œuvre victorieuse de Jésus. Et il n'y a pas d'autre victoire en dehors de cet aspect-là. Et ce n'est autre que par la foi en son nom, en Jésus, que nous pouvons vaincre la tentation et par elle le péché. Mais comment est-ce possible? Est-ce que vous avez remarqué, à chaque fois que Jésus est tenté, il répond par la parole. Et ces citations sont toutes empruntées du Deutéronome. Deutéronome qui fait lui-même référence à l'Exode. Et on l'a vu tout à l'heure. Et il me semble que cela n'est pas anodin, car nous y voyons là une porte ouverte à quelque chose de bien plus grand que la tentation. Une portée théologique qui, waouh, nous révèle qui est véritablement ce Jésus. Et il me semble qu'on voit là très clairement sur Jésus des similitudes qui sont pour Jésus mais aussi pour Israël. Ben oui, vous vous souvenez comme Israël avait provoqué le Seigneur, le Satan fait de même pour Jésus. Et ces similitudes-là, on le voit déjà dans la situation même. À travers la traversée des eaux. Souvenez-vous du contexte dans lequel j'ai expliqué. Israël sortait d'Égypte et après la sortie d'Égypte, enfin en sortant de l'Égypte, ils ont dû traverser les eaux. Et Jésus, avant d'être amené dans le désert pour être tenté, qu'est-ce qu'il fait? Il se baptise. Bon, rien d'extraordinaire jusqu'ici. Ok, avançons. Jésus se retrouve dans le désert. Ah bah tiens, bizarrement, le peuple aussi, pendant 40 jours et 40 nuits, nous dit le texte sur Jésus. Et le peuple, combien d'années ? 40 ans ? Et puis on le voit dans les tentations, cette similitude. Jésus a faim. Et la tentation est de transformer ces pierres en pain, tout comme pour Israël qui crie à Dieu et « Donne-nous à manger !» Et Dieu envoie la manne et la caille en Exode chapitre 16. Et puis on ne s'arrête pas là pour les tentations. Il y a la provocation que nous avons vue déjà. « Jette-toi du haut du temple, qui est cet épisode Amasa » en Exode chapitre 17. Et cette troisième tentation, qui est cette idole, cet appât que Satan tend devant Jésus. Vous savez ce qu'il a fait à Israël ? Vous vous souvenez un petit peu, dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé ? Exode, chapitre 32, il y a eu le veau d'or, une idole. Deux conclusions à cette démonstration, à cette présentation. La première, c'est que le diable agit toujours de la même façon. Il agit toujours de la même façon. Et on le voit dans notre expérience. Ah, j'ai encore chuté pour la même chose en plus. Mince. Satan agit de la même manière à chaque fois. Et la deuxième chose, et je dois dire que c'est bien là la chose à retenir. Si vous devez quitter cette célébration, à retenir cette chose. Écoutez bien. Jésus accomplit parfaitement ce que Israël était incapable de faire. Jésus accomplit parfaitement ce qu'Israël était incapable de faire. Jésus est l'Israël parfaite. Il a refait ce que Israël était incapable. Là où il a failli dans le désert, Jésus, lui, a tenu bon. Il n'a point péché. Et il me semble que le texte de la tentation pointe à cela. Jésus est l'Israël parfaite. Et il commence son ministère de cette manière-là. Jésus va accomplir. Il le pourra, parce qu'il le démontre par là, qu'il est l'Israël parfait. Et je mets une petite aparté sur cette présentation. On voit dans le baptême de Jésus, et bien souvent j'entends dire, il faut se baptiser comme Jésus a fait cet exemple-là. Et je ne suis pas persuadé de cette compréhension-là, au vu de ce que je viens de présenter, mais plus comme Jésus devait faire le chemin que Israël n'avait pas pu. Jésus devait refaire ce chemin-là, en passant par les eaux. Et quand on regarde au texte, c'était le baptême de Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'il l'appelait à la repentance. Est-ce que Jésus avait besoin de la repentance ? Est-ce qu'il avait des péchés ? Je ne pense pas. Et toute cette première section de Matthieu montre qu'il y a une possibilité de salut parfait. Et elle se trouve en Jésus. Fin de la parenthèse. Jésus n'a point commis de péché, mais il a répondu à tout point de vue aux exigences de la loi. Et c'est pourquoi il était le seul à pouvoir mourir sur cette croix, parce qu'il était juste, saint. Il n'avait aucun péché et il a pris sur lui nos fautes et nos péchés. Est-ce que c'était juste ? Non. mais il est quand même mort. Et c'est pourquoi Dieu l'a ressuscité. Un juste pouvait-il mourir pour des injustes? Non. Et Jésus démontre par là, par cette Pâque que nous célébrons année après année, la victoire sur le péché. Et par elle, la mort. Et en s'associant à Jésus et à son œuvre de rédemption, nous sommes par conséquent victorieux, comme lui. Amen. Nous sommes victorieux. Et le texte de Galates nous suggère que désormais, nous avons une nouvelle identité. Galates chapitre 3, versets 26 à 27, je lis. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et si nous avons revêtu Christ qui a été victorieux, alors nous sommes victorieux. En Christ, nous avons ce statut d'enfant de Dieu. Et cette vérité-là est très importante pour nous. Rappelez-vous ce que Satan a voulu faire à Jésus même, en remettant en doute sa véritable identité, celui du Fils de Dieu. Et nous également, nous sommes réellement les enfants de Dieu, libérés de la puissance du péché. Et c'est pourquoi nous pouvons dire stop au péché. Nous pouvons dire non à la tentation. Oui, nous le pouvons parce que Jésus a brisé ces chaînes qui nous retenaient captifs du péché. Et cette identité est encore une fois, j'insiste, importante pour nous. Et de ne pas perdre de vue cette nouvelle nature que nous avons en Christ, en tant qu'enfants de lumière. Et Éphésiens, à partir du chapitre 4, nous y invite. Nous sommes maintenant des enfants de lumière, comportons-nous en enfants de lumière. Et Paul, l'apôtre, énumère exhortation après exhortation, impératif après impératif. Vivez comme des enfants de lumière désormais. Je conclurai avec cette citation de Sun Tzu. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est ce général chinois du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est surtout célèbre pour son ouvrage de stratégie militaire, le plus ancien connu, L'art de la guerre. Et il dit dans son ouvrage, je cite, « Qui connaît son ennemi comme il se connaît ? En 100 combats ne sera point défait. Qui se connaît mais ne connaît pas l'ennemi sera victorieux une fois sur deux. Et que dire de ceux qui ne se connaissent pas plus que leurs ennemis ? Je répète, qui connaît son ennemi comme il se connaît, en 100 combats ne sera point défait. Qui se connaît mais ne connaît pas l'ennemi sera victorieux une fois sur deux. Et que dire de ceux qui ne se connaissent pas plus que leurs ennemis ? Connaissons notre ennemi Satan et connaissons également qui nous sommes, enfants de Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, nous croyons que nous avons été délivrés de ces chaînes de péché par ton œuvre accomplie à la croix et par ta résurrection. Et nous te disons merci parce que tout cela n'est que grâce. Maintenant, Seigneur, tu nous appelles à vivre une vie en dehors du péché. Tu nous appelles à vivre une vie de sainteté. Et nous te prions encore, Seigneur, par ton esprit, agis en nous, de manière à ce que nous puissions regarder constamment à toi et ne pas perdre de vue notre véritable identité en Christ. Mais ne pas perdre de vue également ta parole qui nous révèle qui tu es et ce que tu veux pour nous. Nous te prions, Seigneur, de nous équiper dans ces batailles. Ces batailles, certes, mais nous connaissons l'issue, nous sommes déjà victorieux. Et nous croyons que tu agis encore en nous et que tu agiras encore pour la gloire de ton nom. Amen.